La vraie défaite nationale aujourd'hui, c'est une défaite éducative. On laisse les enfants s'enfoncer dans un égalitarisme qui est mauvais pour tout le monde.
Alors j'entends le concert des immobiles, ce sont souvent les plus bruyants, ceux qui, au nom de l'intérêt général, supposé, défendent leur intérêt particulier.
À ma droite, défaite nationale, démolition, naufrage, nivellement par le bas, signé Bruno Le Maire entre autres. À ma gauche, François Hollande et le concert des immobiles, la ministre de l'éducation qui renchérit en disant choisir l'élitisme républicain contre l'élitisme dynastique. De toutes parts, s'échangent donc critiques, clameurs et noms d'oiseaux autour de la réforme du collège proposée par Najat Vallaud-Belkacem. Alors nous vivons sans doute un nouvel épisode de la passion française pour tout ce qui touche à l'éducation, avec une hystérisation du débat qui a gagné les politiques, les intellectuels, parmi lesquels on se gardera bien de faire le tri entre les pseudos et les AOC, une partie des enseignants et des parents d'élèves qui ne savent plus très bien à quel saint laïque se vouer. On s'étripe donc sur les programmes d'histoire, les attaques contre les options latin et grec ou la suppression des classes bilingues. Mais parle-t-on vraiment du cœur de la réforme, à savoir la plus grande autonomie accordée à chaque collège, l'accompagnement personnalisé pour les élèves ou encore la volonté de voir les profs travailler plus en communauté? Alors vous, que retenez-vous de cette réforme? Va-t-elle faire bouger le collège et éviter le décrochage de quelques 140 000 élèves tous les ans? Ou rompt-elle avec les apprentissages fondamentaux en enterrant les notions d'effort et d'excellence? Eh bien, j'attends vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux franceinter.fr, Facebook et sur Twitter avec le hashtag Telson.
France Inter, Hélène Jouan, le téléphone sonne.
Bienvenue à toutes et à tous dans le téléphone sonne ce soir pour répondre à vos questions. Franck Riester, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député UMP de Seine-et-Marne, signataire du courrier adressé au président de la République et qui lui demande le retrait de la réforme annoncée par Najat Vallaud-Belkacem, une lettre initiée par Bruno Le Maire, dont vous êtes un proche par ailleurs, une lettre aujourd'hui signée par 231 parlementaires. Face à vous, Olivier Faure, bonsoir. Député socialiste de Seine-et-Marne, porte-parole du Parti Socialiste, également avec nous en studio. Et je l'en remercie, Sonia Bourhan. Bonsoir Sonia.
Bonsoir.
Qui est responsable donc des questions d'éducation à France Inter. On attend maintenant les questions des auditeurs et des auditrices.
France Inter, le téléphone sonne.
Il faut que je sois en forme. Qu'est-ce que c'est que ce soir là? Eva.
C'est du présent du subjonctif.
Très bien, c'est du présent du subjonctif. Alors si je veux construire un imparfait du subjonctif, je vais faire une concordance de temps. Je vais mettre un passé là.
Il fallait que je sois.
Il fallait que je...
Sois.
Fus.
Mais oui. Vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je vais dire il fallait que je sois fus.
Intervenez 01 45 24 7000 sur la page Facebook du Téléphone Sonne et sur Twitter avec le hashtag Telson.
Extrait d'Entre les murs, le film, l'imparfait du subjonctif, ça reste dans la réforme ou c'est également supprimé? Non,
ça reste
a priori. Sonia Bourhan. Tout de suite, les premières questions des auditeurs. Émilie nous appelle de Lorraine. Bonsoir Émilie.
Bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute.
Alors moi je suis professeure de français et je constate qu'effectivement de nombreux élèves ont un niveau très faible en orthographe en particulier. Et donc ma première remarque, ma première question, c'est comment est-ce qu'on estime, comment est-ce qu'on pense qu'on va rendre les élèves meilleurs en français en leur faisant faire moins de français? C'est-à-dire que les enseignements interdisciplinaires qu'on veut mettre en place avec cette réforme auront des heures qui vont être prises sur les heures de cours, sur les heures de français en particulier. Et quand on voit les exemples d'enseignements interdisciplinaires donnés par le ministère propose de filmer un match de handball, de construire des cabanes, ou pour reprendre un exemple donné par Madame Blandin, sénatrice hier soir, de coupler la biographie de Galilée et l'étude des chiffres romains, tout ça sur 10 à 15 semaines. Donc je pose la question, comment est-ce qu'on pense qu'on va rendre les élèves meilleurs en français? Comment on pense qu'on va améliorer les résultats des élèves en leur faisant faire moins de français, moins de maths, etc., pour consacrer ces heures à des choses comme construire des cabanes ou apprendre les chiffres romains sur 15 semaines?
Merci Émilie pour votre question. On est en plein quand même dans le cœur là de la réforme. Un petit point peut-être Sonia Bourhan. En quoi effectivement on va faire moins de français pour faire quoi à la place? Et après je laisse évidemment la parole aux deux invités.
C'est-à-dire que les enseignements pratiques interdisciplinaires qui vont être mis en place
classes vont effectivement ne vont pas se rajouter aux emplois du temps actuels. Ils vont être pris sur les heures de discipline,
donc telles français,
que le français, par
maths,
exemple, etc. Donc, c'est là où l'auditrice estime que ça va enlever du français. Maintenant, les défenseurs de la réforme expliquent que c'est une façon aussi de faire du français autrement.
Alors, Franck Riester, est-ce que c'est effectivement la bonne façon d'apprendre mieux le français ? A priori, non pour vous, évidemment.
Oui, a priori non. Bon, d'abord, il faut dire que réformer l'éducation nationale, réformer le collège, c'est toujours compliqué. Mais je crois qu'il faut pour ça d'abord travailler avec les premiers concernés, que sont les enseignants. C'est eux qui, quand même, par leur expérience, sont les mieux à même de travailler à des pistes d'amélioration. Et manifestement, dans cette réforme, ils sont les grands absents de la concertation avec le gouvernement. Alors, précisément, par rapport à ce qu'a dit
Émilie,
cette enseignante en français, moi, je suis totalement d'accord. Il me semble que pour faire en sorte que les jeunes élèves puissent acquérir les savoirs fondamentaux, il ne faut pas moins d'heures, mais plus d'heures, à la rigueur, d'enseignements fondamentaux. Quitte à ce qu'il y ait des collaborations. Il y en a déjà beaucoup, vous savez, entre professeurs qui échangent dans le cadre de projets pédagogiques, de voyages, de travail en commun. Mais objectivement, si ça ne peut pas être en réduisant le volume horaire des savoirs fondamentaux. Moi, je pense même qu'il faudrait les augmenter parce que un des grands problèmes de notre éducation nationale aujourd'hui à la sortie du collège, c'est qu'un grand nombre, vous l'avez rappelé, de collégiens ne maîtrisent pas correctement le français, ne maîtrisent pas correctement les fondamentaux en histoire, ne maîtrisent pas correctement les mathématiques.
Olivier Faure, est-ce que c'est en enlevant des heures de français, notamment, qu'on va rendre les élèves meilleurs en orthographe, en grammaire, en vocabulaire ?
D'abord, si vous me permettez de dire à Franck Riester que c'est pas non plus en supprimant des enseignants 80 000 au cours de la dernière législature, qu'on arrivera à avoir des enseignants de meilleure qualité. Ça, c'est le premier point. Ensuite, sur la réforme elle-même, bon, c'est toujours compliqué. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on touche à l'éducation, on touche aux enfants, on touche à ce qui aussi relève de notre identité commune, etc. Et donc, ça soulève beaucoup de passion. Et c'est normal. Et ce débat-là, il doit avoir lieu. Mais contrairement à ce que vient de dire Franck Riester, ce sont les enseignants eux-mêmes qui proposent cette réforme, elle ne tombe pas du ciel. En fait, il y a un Conseil supérieur de l'éducation qui donc s'est réuni pendant 2 ans et qui a proposé ce projet de réforme. C'est pas une réforme qui tombe direct du bureau de la ministre sur la tête des enseignants. Donc, ils sont partis de quel constat ? Ils sont partis de l'idée que le collège, aujourd'hui, c'est le maillon faible. Ça marche pas assez bien et donc nous avons, c'est le rapport PISA qui fait le point sur les systèmes scolaires dans les pays de l'OCDE, qui dénonce aujourd'hui le fait que la France est le pays le plus inégalitaire de l'OCDE en matière d'éducation. Ce qui veut dire en gros que l'école, au lieu de tirer une génération vers le haut, eh bien elle maintient les inégalités de départ, c'est-à-dire que vous êtes bien né, bah vous finissez bien scolarisé, et inversement, vous êtes mal né, et dans ces cas-là, vous avez peu de chances de vous en sortir.
On peut être d'accord sur le diagnostic et ne pas être d'accord avec la réforme proposée.
Bien sûr. Alors, pour en venir à la question spécifique, évidemment, les savoirs fondamentaux, c'est important. Mais est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui d'autres moyens de faire passer des réformes fondamentales que les moyens classiques, qui sont les moyens qu'on connaît depuis toujours et qui ont montré aussi leurs limites? Quand on dit qu'on va faire, on va pas faire des cabanes, on va pas aller partir, c'est pas l'idée, c'est pas de faire des classes vertes tous les jours. L'idée, c'est de pouvoir mettre les enfants en situation, y compris l'interdisciplinarité, qu'ils comprennent que les savoirs se complètent, qu'ils s'adossent les uns aux autres. Et quand on va parler, par exemple, de sciences et sociétés, ben, on parlera à la fois de sciences, on parlera de physique, on parlera de mathématiques, on parlera aussi d'histoire, on parlera aussi de géographie, on parlera
Najat
de français.
Najat Vallaud-Belkacem m'a dit qu'il faut supprimer l'ennui. L'idée, c'est quand même, pour elle, de dire que c'est parce que les enfants s'ennuient qu'ils apprennent mal, du coup.
Ben, je ne sais pas si c'est la question de l'ennui, mais c'est vrai qu'il y a une part des jeunes Français qui décrochent très tôt et qui donc ont besoin de voir leur attention en permanence donc réattrapée pour pouvoir être sûr de les emmener le plus loin possible. L'idée, c'est quoi ? C'est, enfin, je sais bien que le débat, Mais... à chaque fois était compliqué. Je finis juste d'un mot pour dire que quand il a fallu emmener 80% d'une classe d'âge au niveau du bac, je me souviens des débats. La droite disait déjà, c'est pas possible, on va niveler par le bas. Aujourd'hui, elle n'est pas revenue en arrière parce qu'elle considère qu'effectivement, c'est un impératif, y compris par rapport à la compétition internationale que nous conduisons face à d'autres nations qui, elles, se développent à grand rythme et qui emmènent leur génération vers une meilleure formation. Quand on a dit il faut ouvrir Sciences Po à des élèves des ZEP, pareil, il y a eu des cris de frais, on va casser l'élitisme républicain. C'est l'inverse qui s'est produit. On a tiré des quartiers vers le haut, et je vois dans ma propre circonscription, le simple fait d'avoir des élèves qui sont préparés à Sciences Po, c'est une émulation pour l'ensemble des élèves du collège.
On en parlera tout à l'heure pour les classes bilingues, parce que franchement, c'est l'inverse qui est proposé par cette réforme, de ce que vous dites. Mais franchement, si on reste sur l'ennui et l'interdisciplinarité, les professeurs, aujourd'hui, c'est une des préoccupations constantes qu'ils ont en tête, c'est de faire en sorte que leurs élèves soient à l'écoute de ce qu'ils disent, fassent en sorte que leurs élèves puissent apprendre le mieux possible la discipline qu'ils enseignent.
Mais là, ça peut être des moyens et des façons de faire différentes.
Ils sont en permanence dans les enseignants. Faisons leur confiance, mais ne leur retirons pas du temps d'instruction, de savoirs fondamentaux, pour des compléments qui peuvent être, comme son nom l'indique, des compléments en termes de temps. Ne prenons pas sur des cotations de temps qui sont déjà limitées pour enseigner les savoirs fondamentaux. Vraiment, ça serait une erreur historique. C'est pas avec, en travaillant moins, c'est pas en faisant moins d'efforts qu'on y arrivera. C'est en faisant davantage.
Alors, on va revenir, je crois, au cours de cette émission sur la notion d'effort. Classe bilingue, vous avez prononcé ce terme, et c'est un des écueils, visiblement, de cette réforme. Je crois que Laurence a une question qui porte sur la classe bilingue. Vous nous appelez de Normandie, Laurence. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Je voulais en effet poser une question à Monsieur Faure, et je m'interroge et je me demande s'il sait comment se passe le recrutement dans les classes bilingues. Parce qu'en réalité, ce reproche d'élitisme ne tient pas du tout quand on connaît la réalité du terrain. Les professeurs de collège, pour constituer leur classe bilingue, vont dans les écoles primaires stimuler l'intérêt des élèves de primaire pour l'allemand. Et ensuite, le jeune élève de primaire va rentrer au collège et il va vouloir faire de l'allemand et il va se retrouver dans la majorité des collèges automatiquement dans une classe bilingue parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de faire allemand.
Mais pardonnez-moi Laurence, aujourd'hui ça concernait combien d'élèves ces classes bilingues?
Vous voulez dire en nombre d'élèves?
Oui.
Il y a 15% d'élèves qui font de l'allemand en collège.
Et donc aujourd'hui, ce qui est proposé, 16% de classes bilingues. Alors la défense, mais je vais donner la parole à Olivier Faure, la défense de la ministre, c'est de dire on enlève ça pour permettre à tous les élèves d'avoir l'enseignement de la langue vivante 2, alors ça peut être, et c'est souvent l'allemand, dès la 5e. C'est ça l'idée de cette réforme, Olivier Faure?
L'idée de la réforme, c'est d'abord de dire que en France, nous sommes assez mauvais en langue. Et on aime parler le français, mais en dehors de ça, du français, on a du mal en anglais, en allemand, en espagnol, et que donc il faut, si là encore nous voulons être compétitifs au plan mondial, il faut commercer avec d'autres, il faut, tout est aujourd'hui en anglais, en allemand, en espagnol.
Mais ce que Laurence nous dit, c'est que ça marchait pas mal, ces classes, et que surtout, c'était pas élitiste dans le sens...
Mais ces classes marchaient très bien.
Alors on les supprime. Pourquoi dire que c'est de l'élitisme alors?
Non, mais je suis pas entièrement en désaccord avec ce qui vient d'être dit. Mais j'essaye de défendre d'abord l'idée de la réforme. L'idée de la réforme, c'est de dire aujourd'hui, on a 16% de jeunes Français qui sont dans ces classes bilingues et qui marchent très bien. Demain, l'idée, c'est de faire à la fois une initiation qui soit plus dense dans les petites classes, du CP jusqu'au CM2. Et puis ensuite, en sixième, on choisit la langue de son choix. Ça peut être l'allemand, ça peut être l'anglais, etc. Ça peut être soit dans la continuité de ce qu'on a appris dans les petites classes, soit en rupture avec ce qu'on a appris en primaire. Et puis en cinquième, on a la seconde langue vivante qui intervient. C'est-à-dire qu'on aura gagné un an. Tout le monde, en fait, aura deux langues vivantes dès la cinquième. Alors
mais on diminue les heures quand même en cinquième. Deux heures et demie par semaine.
Parce qu'il y a un apprentissage qui doit se faire aussi sur la durée et que donc on commence plus tôt et il y en a un peu moins au départ. Yeah. Mais l'idée, c'est d'amener toute une génération à mieux communiquer dans d'autres langues étrangères. Et donc, voilà. Mais alors, si je peux mettre juste un bémol, à moins que Franck Riester veuille le faire à ma place, mais c'est vrai que moi, j'ai une petite difficulté avec les classes bilingues, c'est que, et là, je vais dire une chose horrible, c'est que ça permettait justement aussi parfois à des parents de s'assurer que leurs enfants resteraient dans une école qui était une école mal cotée et qui était une école dans laquelle ils pouvaient tirer leurs enfants vers le haut en les inscrivant dans la classe bilingue. Et donc, on réintroduisait de la mixité sociale dans des quartiers où, malheureusement, elle est parfois absente si on ne le fait pas. Et donc, le risque, c'est de voir des enfants partir dans le privé. Donc, c'est une difficulté et sur laquelle il faut travailler.
Franck Riester, vous partagez le bémol?
Oui, c'est le bémol. Je dirais que c'est le proche de Jean-Marc Ayrault qui parle et il a raison. On est complètement d'accord avec, enfin, je suis complètement d'accord avec cet argument-là. En revanche, sur la question de l'allemand, par exemple, et de la deuxième langue vivante, moi, je pense qu'il y a un vrai risque, c'est cette rupture, justement, de la sixième. Parce que le gros avantage des classes bilingues, c'est que ceux qui étaient vraiment très motivés pour apprendre deux langues pouvaient, dès la sixième, en continuité des enseignements d'initiation qu'ils avaient eu à l'école primaire, continuer à avoir deux langues. Or là, il y aura une rupture. Ils pourront reprendre qu'en cinquième et avec des heures en moins. Et là, il y a un vrai risque de pas augmenter le niveau des Français en termes de langue vivante, mais de le diminuer pour notamment les plus motivés, les plus mobilisés d'entre eux.
Il fallait faire si quoi on voulait, les généraliser, si on voulait, les classes bilingues.
Oui, si on estime que c'est un moyen d'améliorer la qualité d'enseignement des langues vivantes, eh ben généralisons-la. En tout cas, créons davantage de langues bilingues. Si on estime que dès la cinquième, il faut donner la possibilité à tous les enfants de le faire, bah, faisons-le, mais n'empêchons pas ceux qui pouvaient le faire dès la sixième de continuer à le faire.
Sonia Bourane. Mais pour mesurer l'importance des classes bilingues, il faut savoir qu'en sixième, 100 000 élèves à peu près apprennent l'allemand, dont 87 000 en classe bilingue actuellement. Donc il n'est pas sûr qu'en LV2,
En langue vivante 2,
en cinquième, on retrouve le même nombre de germanistes. Ça, c'est une vraie interrogation.
Mais
Ils pourront en réalité prendre allemand dès la sixième. C'est pas une obligation de le faire en cinquième.
Oui, mais ils auront plus l'anglais.
Ils auront plus l'anglais. Alors, je crois qu'il y a une question justement de Bruno qui est dans ce cas-là. Bruno qui nous appelle de Nantes. Bonsoir, Bruno.
Oui, bonsoir. Merci de prendre ma question et merci pour la qualité de vos émissions.
Merci.
Et c'est pas un rituel quand je le dis. Je le pense sincèrement. Moi, j'ai un témoignage et puis une question. Le témoignage, c'est celui d'un père, voilà, dont la fille est rentrée en sixième cette année. En classe bilingue, donc elle fait partie des 87 000 élèves que vient de citer votre intervenante. Et c'était absolument pas une stratégie élitiste de contournement d'une carte scolaire, c'est que tout simplement c'était une proposition faite aux élèves dans le collège rural où est scolarisée ma fille, et qu'elle souhaitait effectivement faire de l'allemand, et que c'était la seule possibilité, c'était la classe bilingue. Et ces classes sont d'ailleurs mixtes, c'est-à-dire que il y a 50% d'élèves qui sont bilingues anglais-allemand, et 50% d'élèves qui ne font pas d'allemand. Donc il y a quand même un brassage dans la classe. Et voilà, enfin, la manière dont ça s'organise convient à ma fille. Donc moi, je suis un petit peu dubitatif et inquiet quant au changement là qui nous est annoncé.
Ça veut dire que concrètement, par exemple, votre fille en cinquième l'année prochaine, alors ça ne rentrera en vigueur cette réforme qu'en 2016. Hein. Donc voilà. Là, elle va poursuivre sa classe bilingue en cinquième. Elle va connaître le cursus normal, enfin existant en tout cas, j'imagine, Bruno.
Bah, là, en ce moment, le dispositif, hein, c'est 2 heures d'anglais, 2 heures d'allemand et 1 heure en commun où les deux enseignants sont ensemble. Moi, il me semble que ça fonctionne plutôt bien. Donc, effectivement, ma fille va peut-être passer au travers des effets de cette réforme si elle passe en cinquième l'an prochain. Mais le dispositif tel qu'il est, tel que je le vis en tant que parent, moi, me semble tout à fait, je dirais, tirer l'ensemble des enfants vers le haut, et elle fait des progrès, sachant que nous, dans notre famille, personne n'est germaniste. Hein.
Ouais. Donc vous regrettez, Bruno, vous regrettez la disparition de ces classes, c'est ça?
Ben, je pense que plus on commence tôt et mieux c'est. Donc il y a des apprentissages qui peuvent démarrer plus tôt, mais là il y a vraiment des séquences de cours dédiées à l'allemand et ça se passe bien. Et juste, je vais pas monopoliser la parole, je m'inquiète quand on entend un de vos invités qui dit qu'il faudrait rajouter des heures ou rajouter des heures aux élèves. Moi franchement j'ai l'impression qu'ils font déjà énormément et je suis très inquiet sur les réformes de programme où on n'est pas capable d'arbitrer et de
voilà. Merci Bruno pour ce témoignage.
Oui,
Franck Riester.
Ce que dit Bruno est très juste sur le fait de la mixité dans les classes. Quand on dit classe bilingue, c'est pas forcément, ça peut exister, mais c'est pas la généralité, loin s'en faut. Une classe avec que des gens qui ont deux langues, que des élèves qui ont deux langues vivantes. C'est souvent dans une classe, une partie de la classe qui est dans ce qu'on dit une classe bilingue, c'est-à-dire qui a en plus des heures de deuxième langue vivante. Ce qui permet de créer une dynamique dans la classe, ce qui permet que ces élèves-là, qui risquent, comme le disait Olivier Faure tout à l'heure, d'aller vers le privé s'ils n'ont plus dans l'école publique la possibilité d'avoir accès à ces classes bilingues, de tirer d'une certaine façon la classe et d'avoir une mixité de niveaux bien plus importante.
Alors une pierre quand même dans votre jardin qui vous était lancée par Bruno, qui dit en même temps, il faut choisir, on ne peut pas rajouter des heures aux enfants qui sont déjà submergés parfois de travail.
Il n'a pas tort, donc s'il faut privilégier...
Donc il faut choisir.
S'il faut choisir, choisissons les savoirs fondamentaux.
Sonia Bourhan.
Oui, je voulais préciser que la réforme effectivement entre en vigueur à la rentrée 2016 et normalement il est question de supprimer toutes les classes bilingues, quel que soit le niveau. Il ne va pas y avoir d'entrée progressive, de suppression progressive des classes bilingues. Donc cet élève, par exemple, en quatrième, n'aura plus la classe bilingue.
Oui, mais en quatrième, on a le droit à deux langues vivantes. Elle arrive en quatrième, j'ai envie de dire que pour elle, ça tombe bien.
Voilà, mais il faudra réaménager avec des cours de différents niveaux.
L'action du tuilage peut être revue, ça fait partie des choses qui doivent être encore étudiées. Mais...
Olivier Faure, un témoignage quand même de Bruno qui dit, moi c'était pas pour contourner quoi que ce soit, c'est en gros ça apporte vraiment quelque chose à ma fille, il vient pas d'un milieu germaniste, c'était formidable.
Enfin, l'idée c'était pas de supprimer un avantage acquis, c'est de faire en sorte que le plus grand nombre puisse en bénéficier. Donc là effectivement il y avait des enfants, 20%, 16% qui avaient accès à deux langues dès la sixième, on aura 100% des enfants qui accéderont donc dès la cinquième à deux langues vivantes. Avouez que on est quand même l'idéal ce serait qu'on ait 100% des élèves, c'est ce que vous avez dit à l'instant Franck Riester. L'idéal serait qu'on ait 100% des élèves dès la sixième qui aient droit à deux langues. Bon, on fait du chemin, on dit c'est 100% en cinquième.
Avec un bémol, c'est que dès la sixième, tous les enfants ne peuvent pas forcément acquérir d'une façon appropriée deux langues vivantes. Ils ont aussi besoin de conforter leur français, conforter leurs mathématiques.
C'est pas la réforme, c'est ce que vous vouliez.
Généralisons
à l'ensemble des élèves, pourquoi pas. Mais ce que je vous dis, c'est que nous nous faisons en sorte qu'en cinquième, tous les élèves auront deux langues.
Si vous estimez qu'à partir de la cinquième, il faut le faire, dont acte, mais à ce moment-là, n'empêchez pas ceux qui veulent le faire dès la sixième de pouvoir le faire.
Un appel de Marie. Marie qui nous appelle donc de Paris. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bienvenue, on vous écoute, Marie.
Eh bien, écoutez, moi, j'ai une fille au collège et un fils au lycée. Globalement, je suis très séduite par cette idée de pluridisciplinarité et cette réforme de l'éducation nationale me semble assez opportune parce que j'ai assez l'impression que mes enfants s'ennuient pas mal au collège, même si ça marche bien. Et voilà. J'ai une fille, celle qui est au collège, qui est en classe bilingue, justement, bilingue. Et certes, elle s'y sent bien, mais si tous les élèves peuvent avoir deux langues à partir de la cinquième, je vois pas au nom de quoi je me battrai pour que les classes bilingues persiste et perdure dans ce système assez inégalitaire.
Inégalitaire. Voilà. Merci Marie pour ce témoignage. L'interdisciplinarité me plaît bien, dit-elle. Alors, qui ça va concerner et qu'est-ce que ça change, Sonia Bourhan, d'un point?
Ça va concerner tous les élèves. Hein. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, des enseignements pratiques interdisciplinaires qui vont concerner plusieurs matières.
Il y a huit thématiques
et les établissements choisiront parmi ces huit thématiques 6 d'entre elles, et donc ça laisse une marge de manœuvre aux établissements pour développer ces différents thèmes. Et donc les élèves auront un enseignement pratique interdisciplinaire, enfin ils changeront chaque semestre.
Ça c'est très nouveau, c'est aussi l'autonomie laissée aux chefs d'établissement, aux collèges. C'est quelque chose que vous défendez l'un et l'autre,
oui,
Franck Riester?
C'est le côté... positif de la réforme, c'est donner davantage d'autonomie aux enseignants, au collège et donc d'une certaine façon aux enseignants. Donc ça va dans le bon sens. Voilà, dans une réforme, il y a des choses bonnes et des choses moins bonnes. En tout cas, les choses moins bonnes me paraissent très dangereuses. C'est pour ça qu'on s'y oppose.
Je vais pas vous dire le contraire, mais en plus, moi, je voudrais insister sur le fait que l'interdisciplinarité, c'est aussi une façon de faire comprendre aux enfants que les savoirs sont, c'est pas une ligne d'eau parallèle, enfin, on fait pas de la physique à côté des mathématiques, à côté du français, etc., que tous ces savoirs-là s'interpénètrent et se répondent. Quand dans les fameux donc 20% qui sont laissés à la discrétion des établissements, on a par exemple un thème qui est science et société, pour tous les sujets qu'on a évoqués depuis le mois de janvier, ça a un sens de pouvoir arriver à parler à la fois des progrès de la science et en même temps de ses évolutions, de son rapport au monde, à l'histoire, comment ça s'est, comment on acceptait la science ou pas dans notre pays, à quel moment, sous quelles influences, comment ça s'est passé, c'est plutôt intéressant. Et de pas donc mélanger les savoirs, avoir des enseignants qui ensemble se posent la question de savoir comment ils vont transmettre à leurs élèves.
Mais ça, c'est une gageure quand même pour les enseignants. C'est, on voit bien d'ailleurs que certains soutiennent cette réforme quand d'autres ne la soutiennent pas, parce que tous les enseignants ne sont pas habitués, on ne les a pas forcément poussés jusqu'à aujourd'hui à vraiment travailler ensemble dans leur discipline. C'est-à-dire, vous aviez raison, Franck Riester, de dire qu'il y avait des projets pédagogiques bien communs sûr. Entre certains enseignants, mais ce n'est pas tout à fait la même chose de faire une classe verte ensemble et de travailler par semestre sur des disciplines communes, j'imagine.
Les projets pédagogiques, c'est pas que la classe verte. Pardon.
Non, je caricature, pardonnez-moi Sonia Bourane.
Effectivement, c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire c'est des professeurs qui présentent un projet au rectorat et qui ensuite est validé. Donc ils sont volontaires. Là, c'est différent. Tous les professeurs devront faire de l'interdisciplinarité.
Et quand même, les professeurs en responsabilité de leur discipline mettent déjà en perspective leur discipline par rapport aux autres. Enfin, franchement, on peut pas laisser dire que les professeurs seraient dans leur couloir de nage, n'enseigneraient que leur discipline et ne regarderaient
que
pas
la natation, par
voilà,
exemple.
Pas que la natation et ne regarderaient pas comment fonctionnent d'autres disciplines. Non, vraiment, je crois qu'ils ont comme préoccupation en permanence de faire en sorte que non seulement leurs élèves adhèrent, mais aussi de les mettre en perspective leur discipline. Donc ça existe déjà. Le vrai risque de cette réforme, c'est qu'on ait un quota d'heures non négligeable, 20%, où il y ait beaucoup d'obscurité, moins de clarté et donc moins de temps pour les disciplines fondamentales. Et ça, je crois que c'est un vrai problème.
France Inter, le téléphone sonne. Intervenez au 01 45 24 7000.
Beaucoup de réactions, beaucoup de questions, beaucoup de tweets relatifs à cette réforme des collèges avec des choses très très différentes. Mireille, par exemple, sur franceinter.fr, qui nous écrit « Les concepteurs de programmes semblent ignorer que moins l'école transmet de connaissances et plus elle est inégalitaire. Jonathan, cette réforme produit inévitablement un nivellement par le bas. Toutes les mesures qui fonctionnent, alors il recite les classes européennes, les classes bilingues ne touchent qu'une minorité d'élèves, mais elles sont supprimées. Voilà,
sans compter le latin et le grec. Hein.
Sans compter le latin et le grec, dont on n'a pas encore parlé, mais je crois que Audrey, qui nous appelle de Bourg-en-Bresse, veut nous en parler. Bonsoir Audrey.
Bonsoir.
Bienvenue.
Effectivement, voilà, merci. Je suis professeure de lettres classiques, donc français, latin et grec en collège à Bourg-en-Bresse. Et alors déjà, moi, il y a une chose qui me fait bondir, c'est qu'apparemment, on fait reposer la motivation du projet de réforme sur l'ennui supposé des élèves. L'étude qui dit que 70% d'élèves s'ennuient au collège, en fait, elle a été faite dans un collège de 600 élèves. Donc c'est un échantillon assez limité.
Toute la réforme ne porte pas forcément sur l'ennui. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un échec d'une certaine partie des collégiens, malgré tout.
C'est le point de départ de la réflexion de beaucoup de pédagogues, voilà, de gens du ministère, voilà, de la ministre, qui vraiment martèle cette idée-là depuis le début de l'évocation du projet de réforme sur les grandes ondes, les petites ondes. Voilà. Donc il suffit de venir dans nos classes pour voir que beaucoup d'élèves ne s'ennuient pas. Certes, il y en a qui s'ennuient, mais souvent c'est parce que les enseignements ont perdu du sens, justement parce qu'ils n'ont pas eu un bon accès à la lecture, à l'écriture, à la numération, voilà. Donc ils sont perdus et ils n'ont pas les clés pour entrer dans ce qui pourrait les intéresser. Donc ça, c'est vraiment un présupposé, moi, que je voulais vraiment évoquer. Et évidemment, en tant que prof de lettres classiques, je m'intéresse plus particulièrement à l'enseignement du français, du latin et du grec. On a déjà un peu parlé du français, en disant quand même aussi que les programmes de français qui n'évoquent plus aucun nom d'œuvre, plus aucun auteur, on peut quand même se demander s'ils sont toujours des programmes de français vraiment de littérature. Voilà, donc tirer les élèves vers le haut sans parler du tout de littérature, de courants artistiques, culturels, bien sûr mis à la portée de collégiens, c'est quand même une chose qui vraiment nous interpelle et nous met hors de nous profs de lettres.
Et latin, voilà. Et grec, qu'est-ce qui vous inquiète ?
Et latin et grec, alors voilà, on nous répète depuis quelques jours que la ministre, et ça a été dit même à la télévision il y a quelques minutes, avait cédé et qu'elle avait restitué les heures de latin et grec parce que les profs ont râlé. Donc moi, je tenais à dire que non, l'enseignement du latin et du grec tels qu'ils sont menés actuellement, c'est-à-dire
pour mener les élèves à vraiment découvrir ces deux langues et ces deux cultures, ne sera plus du tout possible avec le projet de réforme. Tout d'abord, dans les programmes, actuellement, il n'y a aucun programme de langue ancienne, ni latin, ni grec, qui n'est constitué par le programme, par le Conseil supérieur des programmes. Il n'y a rien. Il n'y a même pas mention du latin et du grec vraiment de façon très claire dans le socle commun de compétences.
Alors, on va essayer de faire le point, Audrey, très précisément. Est-ce que les élèves les collégiens, à la rentrée 2016, pourront continuer à apprendre le latin ou le grec? Olivier Faure.
Oui, bien sûr. On va même faire mieux, puisque, en fait, EPI, donc je sais même plus ce que ça veut dire.
Enseignement, oui, c'est ça qui est un peu compliqué.
Enseignement pratique interdisciplinaire.
Voilà, les enseignements pratiques interdisciplinaires. On aura aussi la possibilité d'initier aux langues et donc cultures anciennes les élèves. Et donc, on peut même imaginer que, ayant eu cet apprentissage, les enfants choisissent le latin ou le grec et ne se font pas imposer par leurs parents. J'en parle en connaissance de cause, j'ai fait du latin parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire du latin. J'ai fait du latin d'ailleurs l'immense majorité de ceux qui en font aujourd'hui, c'est-à-dire que j'en ai fait
au collège, arrêté au lycée.
En seconde. Et j'avoue que les restes sont infinitésimaux parce que je me mettais dans un coin de la classe et j'attendais que ça se passe. Et je savais que c'était une des façons d'être dans une classe. Enfin, plutôt mes parents m'avaient dit, il faut être là parce que
il y a les bons élèves.
C'est les bons élèves qui sont dans cette classe-là. Voilà. Et donc, il y a seulement un quart de ceux qui font aujourd'hui du latin ou du grec qui sont encore latinistes en seconde, ce qui prouve bien que trois quarts s'arrêtent parce qu'ils avaient utilisé ce moyen-là pour la seule raison que c'était une forme
de sélection
qui s'opérait naturellement. Voilà. Maintenant, il faut bien sûr maintenir l'enseignement du latin et du grec. Et d'ailleurs, on pourra continuer dès la cinquième à se voir
pas avec le même volume d'heures, avec moins d'heures
en cinquième, mais en quatrième et en troisième, on aura le même nombre d'heures qu'aujourd'hui.
Mais est-ce que c'est grave effectivement de supprimer aujourd'hui l'apprentissage de deux options qui étaient proposées donc en option au collège, latin grec? Encore une fois, qui concernait une minorité. Alors, ça pouvait tout à fait passionner cette minorité, mais on a vu aussi que c'était un moyen de sélection, objectivement. Franck Riester. Alors,
la sélection, c'est pas un gros mot. Arrêtons de penser que c'est en supprimant un certain nombre de classes d'excellence, d'options qui permettent de monter le niveau des élèves, qu'on va améliorer le niveau général de tous les élèves. Ça, c'est une vision qu'a la ministre, mais qui me paraît une vision très dangereuse pour notre société et pour l'éducation nationale. Moi, je voulais quand même dire, parce que ça fait plusieurs réactions de professeurs qui s'expriment sur votre onde, qui me fend le cœur d'une certaine façon, qu'on ait des professeurs de français, de lettres classiques, qui expriment autant d'aigreur par rapport à la façon dont la ministre les considère avec cette réforme, c'est quand même très choquant. Et je crois parce que c'est ce que ressentent les professeurs, c'est ce que ressentent les professeurs d'allemand, c'est ce que ressentent les professeurs de français, parce qu'on a on leur donne le sentiment que ce qu'ils enseignent à leurs élèves n'est pas suffisamment intéressant pour que les élèves ne s'ennuient pas, n'est pas suffisamment transversal pour que les élèves puissent comprendre ce qu'ils enseignent. C'est absolument choquant. Et donc, plutôt que ça, essayons de conforter les enseignants en confortant notamment l'apprentissage du français qui passe pour beaucoup d'élèves par l'enseignement du latin. On sait bien que la langue française est issu en grande partie du latin, et pour qu'un certain nombre d'élèves puissent comprendre les mécanismes de la littérature, notamment de haut niveau, ils puissent comprendre le fonctionnement du latin.
Si on devait penser que le latin avait produit le français, il faudrait passer par une autre langue qui a été intermédiaire, qui est l'ancien français, qu'on enseigne nulle part. Et c'est ça qui permettrait effectivement d'avoir...
On rajoute des heures encore.
C'est la vérité, c'est que tous les linguistes vous le diront. En fait, entre le latin et le français, il y a l'ancien français, qui est une langue à part entière, qui s'étudie d'ailleurs à l'université, mais qui n'est pas enseigné dans les petites classes parce qu'on considère que ça n'a pas d'utilité.
C'est sous prétexte qu'on n'enseigne pas l'ancien français, il faut supprimer aussi l'enseignement du latin.
On supprime rien du tout. Je suis pour la sélection, je suis pour l'élitisme républicain, mais sur de bonnes bases. C'est-à-dire qu'on ne fasse pas de l'entre-soi à partir de matières qui sont en réalité utilisé exclusivement pour se retrouver entre soi, mais qui ne servent pas.
Entre qui ?
Mais vous savez très bien. Vous savez très bien aujourd'hui.
C'est des élèves de l'enseignement public qui sont dans les classes avec d'autres. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cet entre soi ?
Ce chiffre, vous le connaissez. 20% des élèves choisissent aujourd'hui le latin et le grec en quatrième, ils ne sont plus que 5% en seconde. Oui, pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que c'est à ce moment-là que ça leur permet d'être dans les bons lycées, les bonnes écoles, les bonnes classes, etc. Mais que donc, ils n'ont aucun intérêt pour la matière. Moi, je suis d'accord pour qu'on sélectionne les élèves sur la base de leur qualité, mais sur la base de leur qualité et non pas sur la base des stratégies posées par leurs parents. Donc, laissons enseigner le latin et le grec aux enfants qui le veulent vraiment. Initions-les dès le départ avec les EPI et puis allons vers l'essentiel.
Une question de Jo qui nous appelle de Toulon. Bonsoir Jo.
Bonsoir, je vous appelle pas de Toulon mais de Tolvon.
Tolvon, pardonnez-moi, il y avait une erreur. Pardonnez-moi.
Alors, moi j'ai plutôt un préalable à la réforme des collèges. La réforme des collèges, elle s'inscrit dans une continuité. Et je suis particulièrement remonté par l'hypocrisie de l'UMP en particulier, vous y en avez un représentant là. Par rapport à deux constats, l'enquête PISA qui a été mise en avant pour dire il faut réformer, qui montre que les niveaux de nos élèves se dégradent, il porte sur 10 années où la droite était au pouvoir. L'UMP, M. le maire, qui est fer de lance de la lutte contre la réforme des collèges, il était 5 années au pouvoir, il a voté 60 000 suppressions de postes d'enseignants et la suppression de la formation des enseignants en IEFM. Je sais de quoi je couche, j'étais professeur en IEFM. Donc,
alors, ce que vous dites, c'est que la droite est comptable de l'héritage. Pour autant, elle a le droit aujourd'hui de contester la réforme présentée par la ministre, non?
Peut-être, mais quand j'entends le représentant de l'UMP prendre en considération les enseignants, leur formation, etc., alors qu'il a voté la suppression de cette formation, ça me met hors de moi.
Bon, ben merci pour cette colère. Franck Riester, réponse à Jo.
Oui, ben écoutez, je suis assez d'accord sur la formation des enseignants, donc je vais pas être contre Jo. C'est vrai que c'est sûrement une erreur d'avoir supprimé la formation des enseignants. Alors, il y aurait sûrement matière à la réformer, mais la supprimer, c'est une erreur. C'est vrai que de laisser des enseignants arriver dans leurs cours sans une formation spécifique d'enseignants, on sait qu'il y a la formation académique, mais il y a aussi la formation en matière de pédagogie, etc. Je pense que c'était une erreur, et donc voilà, dont acte.
La suppression de postes, 80 000.
Après, la suppression de postes, ça c'est une autre question. C'est pas en supprimant ou en rajoutant des postes qu'on solutionnera les problèmes uniquement de l'éducation nationale.
Partout, il faut des profs d'allemand.
On n'a pas parlé de l'accompagnement personnalisé.
En tout cas, il faut sortir du clivage gauche-droite, bête et méchant sur cette question.
Ah ben là, on a compris, c'est assez binaire quand même en même temps ce soir.
Ben non,
relativement binaire.
Bah, je sais.
Il y a des pour, il y a des contre.
Oui, mais c'est pas forcément gauche-droite. Il peut y avoir des pour et des contre, mais qui ne sont pas forcément gauche-droite. D'ailleurs, il y a beaucoup d'opposants à ce texte qui ne sont pas de droite, qui sont de gauche, que ce soit des intellectuels. D'ailleurs, que Najat Vallaud-Belkacem...
Pseudo-intellectuel, on va parvenir sur la polémique.
Bah, oui, mais enfin, bon, quand même, et c'est important de le rappeler, on peut avoir une opinion sur ce texte sans être forcément clivant ou clivé.
Merci à tous les trois d'avoir répondu aux questions des auditeurs et des auditrices de France Inter. Demain, Najat Vallaud-Belkacem sera l'invité de Bruno Duvic à 8h20. Vous pouvez donc appeler la ministre pour lui poser vos questions à partir de 8h40. Le téléphone sonne a été préparé par Ophélie Vivier, animé sur les réseaux sociaux par Sylvain Guilbeault, la technique David Federman et Julia Michel, à la réalisation Stéphanie Texier. Demain soir, on parlera burn-out avec Psychologie Magazine. Mais d'abord, on rejoint Kathleen Evin. Bonsoir Kathleen.
Bonsoir Hélène.
Au programme ce soir de l'Humeur Vagabonde.
Eh bien, encore de la politique, mais cette fois-ci sous forme romanesque, c'est quand même beaucoup mieux. C'est Marc Duguin qui publie Quinquennat chez Gallimard.
Merci, c'est pas très drôle le bouquin de Marc Duguin. Merci Kathleen, très bonne soirée à tous sur France Inter.